Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Philippe Askenazy.
Bonjour.
Bienvenue, économiste au CNRS. Christian Poyot, bonjour.
Bonjour Nicolas Dose.
PDG de Micropole, président de la commission Mutation technologique et impact sociétaux du MEDEF, et Laurent Vronsky, bonjour.
Bonjour à tous.
Directeur général d'Hervor, membre du comité directeur de la fondation Croissance Responsable et secrétaire général de Croissance Plus. Arrêtons-nous une seconde sur la mesure chèque inflation. Philippe Askenazy, on ressuscite une mesure à peu près copier-coller de ce qu'on a fait au mois de mai 2020, au moment où le gouvernement voit qu'avec Covid, il y a des files d'attente devant les banques alimentaires. Et là, donc une mesure qui n'était pas une mesure alimentaire, mais une mesure simplement en cash destinée aux ménages modestes, sera débloquée. Elle était un peu supérieure en termes de montant, 150 euros plus 100 euros par enfant. Là, on est sur 100 euros plus 50 euros par enfant, mais pour plus de bénéficiaires, 9 millions de foyers modestes, c'était 4,1 lors de la mesure du mois de mai 2020. Bon choix politique selon vous ?
Alors, je ne sais pas si c'est un bon choix politique, mais c'est un choix en quelque sorte nécessaire.
Nécessaire.
On est dans une situation où on a une part des Français qui sombrent dans la pauvreté, et notamment des familles. Actuellement, on a de l'ordre de 10 millions de pauvres en France. Alors, vous voyez, là, comme on parle de foyers, ça va être une population plus large, mais justement pour éviter qu'il y ait des centaines de milliers de personnes supplémentaires qui tombent dans une pauvreté monétaire, en tout cas.
Donc en dessous de 1069 euros par mois, hein, c'est le seuil de pauvreté.
Voilà, alors c'est le seuil de pauvreté. On n'a pas encore les chiffres pour 2020. Il faut bien avoir en tête que tout ce que l'on a sur le niveau de la pauvreté française, c'est 2019. Très probablement, dans les semaines qui viennent, on va avoir la pauvreté 2020.
On n'a pas d'éléments 2020 sur le taux de pauvreté.
On n'a que des simulations.
Simulations, on était à 14%.
Voilà, les simulations, c'est stable. Il est possible qu'au cœur de l'été, on apprenne que, en fait, la pauvreté avait augmenté en France pendant la crise sanitaire, lorsqu'on sort des simulations, et qu'ils vont faire une relecture en partie du quinquennat précédent. Donc, aussi d'un point de vue politique, il faut faire des annonces dès aujourd'hui d'une lutte contre la pauvreté. Quant à la question de est-ce qu'on fait un chèque monétaire ou autre, voilà, les ménages savent arbitrer entre les différentes dépenses. Donc, il y a des besoins monétaires, que ça soit ciblé sur l'alimentation, ou plus général.
Là, c'est universel.
Voilà, c'est universel, c'est bien plus.
Mais il ne faut pas cibler des produits, Philippe. On sait que si on cible un produit, le producteur aura tendance à augmenter son prix.
Même, si vous voulez, le ménage lui-même arbitre un minimum encore dans ses différentes dépenses. Donc, je pense que d'un point de vue social et également politique, c'était une mesure nécessaire. Est-ce qu'elle va être suffisante pour soutenir la société ? Ce n'est pas si évident que cela.
C'est versé en une fois, hein, je précise. Et c'est estimé à peu près comme la mesure de mai 2020 à 1 milliard d'euros. Après, s'ajoutera un chèque carburant, mais c'est autre chose. Le chèque carburant, c'est pas forcément pour... ce sera pour sous conditions de ressources, mais sous conditions aussi de déplacement, de nombre de kilomètres parcourus chaque jour, avec ou non la présence de transports en commun qui pourrait présenter une alternative. Par rapport à ce que vient de dire Philippe Askenazy, Laurent Vronsky, est-ce qu'on peut se permettre d'imaginer qu'on va laisser le taux de pauvreté s'accroître à cause de l'inflation et que le gouvernement est dans son rôle, même si pour l'instant, on aligne des milliards qui ne sont pas financés ?
Je pense que la question essentielle, c'est est-ce qu'il vaut mieux distribuer du poisson ou apprendre aux gens à pêcher du poisson ? Parce que les gens qui sont pauvres aujourd'hui, si on se contente juste de leur distribuer des chèques, ils seront pauvres demain et après-demain et encore après-demain. Donc la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut les raccrocher au wagon de la prospérité pour qu'ils sortent de la pauvreté ? Et donc, il y a un effet immédiat que j'entends bien, avec une urgence immédiate que j'entends bien, mais je veux dire, on n'est pas en train de résoudre le problème. Et si nous, effectivement, nous rentrons dans une récession, le problème va s'accélérer. Donc, on est quand même dans, je le rappelle, dans un contexte où on a, fort heureusement, le chômage qui baisse. Le problème numéro un des entreprises aujourd'hui, c'est de recruter. Il n'y a pas une seule entreprise en France qui ne va pas vous dire qu'elle a un problème de recrutement. C'est très simple.
J'ai jamais vu ça. À ce niveau-là, j'ai jamais vu ça.
Chacun peut faire le test. Vous allez dans n'importe quel village en France, vous allez dans n'importe quel café, vous verrez, il y a marqué « on recherche serveuse », etc. Bon. Donc, ça veut dire qu'il y a d'un côté un vrai besoin de main-d'œuvre, et il n'y a pas besoin d'avoir que des programmeurs en Python. Et l'autre côté, effectivement, on a un taux de pauvreté important.
Donc, ben, normalement, non, il n'est pas important. 14%, ce n'est pas un taux important par rapport aux pays de l'OCDE.
Non, mais pour un pays riche, c'est toujours trop important. Je ne suis pas en train de faire une leçon de choses.
Ce sera toujours trop important, mais il y a une partie frictionnelle comme le chômage, de toute façon, qui était impossible à résorber. Et objectivement,
si vous regardez,
moi, j'ignorais que les seuls chiffres valables étaient de 2019. J'avais pas.
Mais Nicolas, si vous comparez par exemple à les périodes que vous prenez avant la guerre, vous allez me dire oui, c'était il y a longtemps. Mais là, il y avait un chômage tel que de toute façon, on ne pouvait pas intégrer les populations. Aujourd'hui, on est dans une configuration où on a un vrai besoin de main-d'œuvre. On est dans une pyramide des âges inversée, c'est-à-dire que le papy-boom est en train de faire des ravages. Et l'autre côté, on a des gens qui sont exclus. Donc la question à se poser, c'est pas simplement de distribuer des chèques one time, c'est comment on fait pour les raccrocher au train général.
Ouais. Là, ce sont clairement des mesures d'urgence qui sont prises, mais on fait un peu que de l'urgence en permanence quand même. Christian Poyot, par rapport à cette situation, puis on peut élargir au fait que, si vous prenez à peu près tout ce qu'on est en train de mettre en place, bouclier tarifaire, gaz, électricité, hausse du chèque énergie, c'était en 2021, le premier chèque inflation versé entre décembre 2021 et février 2022 en fonction du statut des bénéficiaires, la hausse des retraites, le dégel du point d'indice, on pourra en dire un mot. Vous êtes fonctionnaire, vous
Oui.
Ben oui, donc vous êtes concerné. La fin de la redevance télé, enfin, 50 milliards a priori à la louche pour à peine un an de soutien au pouvoir d'achat.
Non, mais on retombe sur ce qui vient d'être dit par Laurent.
Rapprochez le micro, il est trop loin.
Le sujet, c'est le long terme et le court terme, d'accord ? Oui. Si on fait, je ne vais pas me lancer dans une analyse doctrinaire, mais on est en situation effectivement de guerre, d'accord ? Et avec une pression sur l'énergie qui ne va pas diminuer. La guerre en Ukraine, tous les spécialistes malheureusement affirment que ça va être très longtemps. Donc le prix de l'énergie va rester très longtemps. Donc à partir de là, et j'ai écouté aussi encore une fois la tribune de Laurent Wronski juste avant 9h, là, qui parlait de courage, moi je parlerai d'efforts. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette tous dans la tête, qu'il va falloir faire des efforts et faire évoluer notre manière de consommer l'énergie et puis peut-être restreindre certaines choses. Voilà. Et donc le point principal aussi, c'est de travailler plus pour créer de la valeur. Enfin, on enfonce des portes ouvertes, hein, des chefs d'entreprise de dire des choses d'une banalité repoussante. Mais donc il faut retrousser ses manches, travailler plus, faire des efforts pour traiter ce sujet, sachant qu'en plus il y a la transformation écologique, environnementale qui est un vrai point. Bon, on reviendra certainement là-dessus. Mais c'est le sujet principal. Après que dans le court terme, il y a des gens, notamment les classes défavorisées, qui sont dans des problématiques là, tout de suite, maintenant, très difficiles et qu'il faille les aider. Moi, en tout cas, je suis tout à fait pour sur ce sujet. C'est indéniable. Quelqu'un qui est dans une difficulté alimentaire instantanée, il faut faire des efforts. C'est le propre de la société d'aider ceux qui sont dans des situations compliquées. Le tout, c'est de cibler les choses.
Si vous
prenez les 18 centimes sur le carburant, aujourd'hui, ça aide tout le monde, y compris moi-même. Alors que, honnêtement, c'est à moi aussi de faire des efforts et soit de le payer, soit de consommer moins d'essence. Donc, il faut arrêter ce genre de mesures d'arrosage. Quand j'entends dire que certains, il faudrait supprimer la TVA baisser la TVA sur l'essence. Enfin, c'est une aberration. Ça va. Le citadin va être aidé de la même manière que la personne qui fait 30 km ou 50 tous les jours pour aller de son habitation à la ville de province. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc oui, il faut aider les gens qui sont les plus défavorisés de manière très très ciblée, très 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 ciblée. Et à côté, il faut remettre l'église au milieu du village en disant on doit faire les efforts, on doit plus travailler, on doit travailler plus longtemps, donc le sujet de la retraite, etc. Alors c'est pas des mots très très sympathiques, très qui soulèvent les foules peut-être, mais c'est la réalité, quoi. Faut un peu de bon sens, de temps en temps, ça fait du bien.
C'est ce que dit Geoffroy Roux de Bézieux dans Les Échos aujourd'hui. Il dit qu'il faut réformer, et la réforme des retraites doit arriver en priorité.
Ben oui.
Par rapport à ce qui a été dit, Philippe Askenazy, alors je ne sais pas si vous avez un avis sur baisser les taxes ou pas baisser les taxes. Il est vrai que quand on baisse une taxe, généralement on ne la relève pas après, c'est très compliqué. Et puis, c'est une mesure qui n'est pas discrétionnaire, tout le monde en profite. Et donc là, on n'est pas sur une mesure ciblée. Et l'idée que, rappeler quand même que toute cette redistribution, c'est pas mal d'avoir produit de la richesse avant pour pouvoir la réaliser, et que la richesse, ça se produit en travaillant, et que travailler plus, la principale mesure du travailler plus, ce sera la réforme des retraites. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, alors ça fait beaucoup de
éléments
en même temps.
Il y a deux sujets qui n'ont rien à voir.
Alors déjà, il faut avoir en tête que la pauvreté et la question d'être au travail sont pas totalement corrélées. Actuellement, donc là, on a des grands chefs d'entreprise, mais aujourd'hui, parmi les entrepreneurs en France, vous aviez en 2019 12% de pauvres. Et aujourd'hui, on est plutôt à 15%. Ce n'est pas des personnes qui ne travaillent pas. Elles sont pauvres, voilà, mais elles travaillent. Et vous avez 7% des salariés en 2019, et certainement un petit peu plus aujourd'hui, qui étaient pauvres. Et ce n'étaient pas des personnes qui ne travaillaient pas. Donc il faut faire attention, on a aussi une pauvreté laborieuse en France, comme dans d'autres pays, par ailleurs. Et c'est peut-être là où se joue le plus le jeu aujourd'hui. Parce qu'il y a d'un côté un discours qui est de dire qu'il ne faut pas augmenter les salaires pour ne pas faire une boucle prix-salaire, etc. Mais justement, toute la politique gouvernementale qui est de faire ces arrosages, c'est de donner suffisamment à flot de pouvoir d'achat pour qu'il n'y ait pas des revendications salariales massives, que ça soit du côté de lui étant employeur et comme du côté des entreprises. Donc aujourd'hui, c'est avant tout une stratégie pour casser une éventuelle boucle prix-salaire. Je ne dis pas que ça va fonctionner ou autre, mais il faut voir sa logique. Ce n'est pas de distribuer, ce n'est pas un État qui est dans une logique non libérale, en quelque sorte. C'est essayer d'éviter ce que l'on voit dans beaucoup de pays européens, des revendications salariales massives à des niveaux très élevés, que ce soit en Grande-Bretagne ou en Allemagne, et notamment dans des segments de services, de services publics. Donc ça, c'est un pan important à avoir en tête de la logique qui est à l'œuvre aujourd'hui de la part du gouvernement.
Ce qui est d'ailleurs bizarre, hein, Bruno Le Maire dit a répété, monter les salaires et fait tout ce qu'il faut à côté pour que ça n'arrive pas, en fait.
Oui, enfin, il veut quand même, enfin voilà, il veut que les salaires, enfin, ce qu'il veut pas non plus, c'est un écrasement des hiérarchies salariales. Et ça, c'est un autre type de problème, et un problème de recrutement pour les entreprises. Si vous proposez à tout le monde le SMIC, ça pose quand même des difficultés. Donc, il faut trouver de manière consensuelle, par notamment la négociation de branches, les moyens de retrouver un minimum de hiérarchie salariale et d'éviter qu'il y ait des frustrations extrêmement fortes. Et c'est un petit peu ce qui est recherché dans l'État. Ce que vous citiez, donc, je suis fonctionnaire, alors effectivement. Donc, la large majorité de fonctionnaires, ce qu'on appelle la JIPA, c'est une garantie individuelle de pouvoir d'achat. Vous avez, tous les hauts fonctionnaires, entre guillemets, donc ça va du chercheur, les magistrats, les commissaires de police, etc., qui n'ont pas droit à cette JIPA. Et donc vous allez vous retrouver quelque chose, s'ils n'augmentent pas le point d'indice, un petit peu absurde. Des fonctionnaires plus bas dans la hiérarchie vont bénéficier de leur garantie individuelle de pouvoir d'achat, voir leur salaire augmenter et dépasser des fonctionnaires qui sont au-dessus d'eux. C'est ça qu'il y a aujourd'hui.
Ça arrive, ça.
Ça arrive s'ils ne font rien. Ça va arriver à l'automne, normalement.
À l'automne, on finira par avoir des catégories B qui sont au-dessus de catégories A.
Sauf s'il n'augmente non, mais tout à fait. Des catégories, ce qu'on appelle A+,
d'accord.
Des A qui doubleraient des A+, ce qui ne va pas être jouable. Ou
non, il y a un moment, en termes de cohésion, c'est pas possible.
Le point d'indice pour éviter cette situation et que tout le monde en bénéficie. Donc, vous voyez, toutes sortes de... On avait construit un monde qui était sans inflation. Et ce monde n'est pas adapté à un univers avec inflation, ce qui oblige des bricolages absolument dans tous les sens de la part de l'État, mais aussi de l'ensemble des employeurs qui doivent retrouver des logiques d'un monde inflationniste, comment négocier, à quel niveau, etc.
Le dégel du point d'indice va intervenir, on ne sait pas de combien, on verra. Nous, on avait 4%, zone d'équilibre de négociation, mais effectivement, la négociation n'est pas finie. Vous vouliez réagir? Allez-y, Laurent Wonski et Christian Poyot.
Par rapport à ce que vous venez de dire, alors, moi, je pense qu'on est de la même génération, Christian et moi, donc nous, on a connu l'inflation. Hein. Bon, nous, on sait ce que c'est.
C'était 14 ou 15.
Voilà, on a connu ça à deux chiffres. Bon, donc on sait très bien que, enfin, je me fais un peu ton interprète, que les taux d'intérêt négatifs, c'est une aberration économique. Et on savait très bien que ça durait pas éternellement. Donc effectivement, là, on retrouve malheureusement les fantômes du passé, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de générations qui ne savent pas ce que c'est. Bon, et je pense que ça va être très difficile pour elle. Mais la deuxième chose aussi qui est nouvelle, c'est qu'on a l'impression que l'argent tombe du ciel. Et il y a eu un coup d'accélérateur avec le Covid, parce que je rappelle que avant de rentrer dans la crise du Covid, on expliquait que la France devait faire des économies, etc. Arrive le Covid, et là, finalement, l'argent tombe du ciel. Donc les gens disent, finalement, on est un pays super riche, puisque les milliards pleuvent.
Et ça continue. Non, mais c'est vrai que c'est terrifiant.
Moi, la question, si vous voulez, la question que je me pose, c'est que là, on est dans une stratégie budgétaire open bar, et il y a forcément une bonne raison de distribuer des verres gratuits à tout le monde. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus d'alcool dans les bouteilles. Et là, on fait quoi? Moi, c'est juste la question que je me pose. Et est-ce qu'on se retourne, comme traditionnellement, vers ceux qui peuvent payer plus, etc.? Je pense que là, ça ne sera pas suffisant. Donc, simplement, je veux juste expliquer les choses de manière très simple. C'est que l'argent gratuit, ça n'existe pas. Et que les conneries, je veux dire, c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer.
Alors ça existait l'argent gratuit, Laurent Wonski. Hein. Ça existait quand tout d'un coup on a eu des taux d'intérêt négatifs, l'argent était gratuit.
Oui, bah, enfin,
on était dans la situation aberrante où votre banquier vous paye pour vous prêter de l'argent.
Et puis phénomène. Hein.
Eh ben, ouais, mais ça a duré suffisamment longtemps pour nous permettre de rentrer dans cette idée intellectuelle qu'effectivement pour un milliard t'as plus rien. Et maintenant l'unité de compte c'est la dizaine de milliards. Quand je dis 50 milliards là en à peu près un an de subvention de la vie de tous les jours, il y a certainement des quantités de gens qui entendent ça sans être absolument choqués du chiffre.
Mais ouais,
autrefois, je vous aurais dit 5 milliards d'euros et on aurait poussé les crédits d'orfraie.
Je voudrais revenir sur le point qui a été dit avec justesse, d'ailleurs, qu'effectivement, il y a un ensemble de travailleurs pauvres. Enfin, l'expression est pas belle, mais enfin...
La pauvreté laborieuse, vous avez dit.
Pauvreté laborieuse, mais peu importe.
Ça existe, il n'y a pas de problème, ça existe.
Je ne conteste absolument pas ça, mais pourquoi, et on est tous les premiers à le dire, les chefs d'entreprise, que le salaire net des gens est trop faible.
Ah.
Le salaire net est trop faible.
Ah.
Non, mais ce n'est pas une nouvelle. Alors là, on le dit depuis.
Non, mais c'est un sujet que je trouve passionnant.
Mais pourquoi il est trop faible? Parce qu'entre le salaire net et puis ce que paye la boîte, c'est x2. Enfin, en tout cas, dans mes métiers à
moi. Donc le brut, le super brut, et voilà.
Pareil, hein, pour nous tous. Un salarié de chez Micropole, il touche 1 euro, Micropole, ça lui coûte 2 euros. Il faut quand même être conscient. Et pourquoi? Parce que derrière, il y a un poids des charges globales qui est phénoménal. Donc le but, c'est quoi? C'est créer de la richesse. Il faut alléger ce poids sur les entreprises, mais slash les salariés, qui au final, c'est eux que nous sommes tous, qui consommons, etc. etc. Donc, encore une fois, j'ai vraiment l'impression à chaque fois de répéter, mais je le fais avec grand plaisir. Donc, faut regarder les choses très concrètement, pragmatiquement. Il faut travailler plus, il faut alléger les charges pour qu'on puisse embaucher, que les salariés, au final, gagnent plus et qu'on sorte de ces trappes.
D'accord, Christian, mais il y a un moment, il faut financer la protection sociale. On ne peut pas éternellement baisser les cotisations. CICE, cotisation zéro au niveau, enfin, pour l'employeur au niveau du SMIC, il reste que accident du travail et maladie professionnelle. Sinon, la protection sociale n'est pas financée.
Oui, mais on est.
Alors, dans ces cas-là, moi, je veux bien qu'on ouvre le débat pour savoir qu'est-ce qu'on bascule vers l'impôt.
Oui, juste
qu'on va vers la TVA, la CSG.
C'est mon thème préféré, vous savez, les 35 heures. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est complètement noyé dans le budget de l'État, mais quand c'était séparé, ça valait 15 milliards par an, les 35 heures.
Ça a commencé à 12 et c'est monté assez vite à 15.
Donc, c'est l'État qui, en fait, nous tous, qui finançons le fait que les gens travaillent 35 heures.
Je suis pas d'accord, Philippe.
Mais oui, mais c'est la réalité. C'est la réalité des choses. Et quand vous voyez des fonctionnaires qui aujourd'hui refusent de travailler 35 heures et sur 32 heures, ça coûte de l'argent aussi. C'est ça quand même le sujet. Donc les entreprises ne payent pas les charges qu'elles peuvent pas et c'est l'État qui compense, donc nous tous. Voilà, c'est donc les 35 heures, la retraite qu'il faut faire évoluer, etc. Alors c'est pas des sujets plaisants, mais c'est la réalité des choses. Mais
réagissez, Philippe, parce que c'est vrai que les 35 heures, quand on décide qu'on met en place cette loi qui revient finalement en déclenchant l'heure supplémentaire à la 36e, ça revient à imposer une hausse de salaire à l'ensemble des entreprises, puisque c'était 35 payés 39. Et on a très vite mis 12 milliards, puis très vite 15 milliards d'allègements de cotisations par an, parce que sinon ça ne rentrait pas. Hop, il y a 40 secondes, je vous le fais réagir dans un instant. Ah. J'ai pas envie de vous couper la parole trop vite, donc voilà. On réagit à ça. Je veux bien qu'on pose quand même la question de, ok, le net est trop bas, alors qu'est-ce qu'on bascule sur l'impôt? Et ce qu'on, ça, Emmanuel Macron a commencé à basculer une partie du financement de la protection sociale sur l'impôt. Est-ce qu'on va plus loin? Alors évidemment.
Non, mais on peut optimiser le fonctionnement de l'État aussi.
Alors oui.
Et des collectivités locales et territoriales.
Oui, mais les collectivités locales, c'est pas payé sur les cotisations des salariés. Là, on parle vraiment de la santé, de la retraite, de l'assurance chômage principalement.
Enfin, c'est des taxes qui au final pèsent sur les entreprises.
Hein. Ah mais oui, ça rentre dans la catégorie des prélèvements obligatoires, les cotisations sociales.